Mesdames et messieurs, bonjour. Le bulletin d'information vous est présenté par Alexis Rosenzweig. À 7 jours du sommet de Bruxelles, les chefs des gouvernements polonais, tchèques, hongrois et slovaques ont serré les rangs dans l'espoir de sauver l'avenir de la Constitution et de l'élargissement de l'Union européenne. Réunis vendredi à Kazimierz Dolny, à 120 km au sud-est de Varsovie, les quatre chefs de gouvernement se sont prononcés pour la poursuite de la ratification de la Constitution européenne par tous les membres de l'Union, malgré les noms français et néerlandais. Jiří Paroubek, Premier ministre tchèque, a déclaré qu'il attendait du Conseil européen des 16 et 17 juin un signal pour que le oui à la Constitution l'emporte en République tchèque, où le processus de ratification reste encore à décider. Dans une déclaration séparée, le groupe de Visegrad a appelé les pays de l'UE à soutenir les efforts de l'Ukraine en vue de rejoindre l'Union européenne. Les quatre chefs de gouvernement ont été rejoints vendredi par leur homologue ukrainienne, Yulia Tymoshenko. Les vestiges de la plus ancienne civilisation en Europe, datant d'il y a 7000 ans, ont été découverts par des archéologues, c'est ce que rapporte samedi le quotidien britannique The Independent. Les traces de plus de 150 temples édifiés entre 4800 et 4600 avant Jésus-Christ ont été localisées sur une zone de plus de 600 km de long, couvrant ce qui constitue aujourd'hui l'est de l'Allemagne, la République tchèque, la Slovaquie et l'Autriche. Ces constructions de grande taille ont été érigées quelque 2000 ans avant les pyramides d'Égypte et le centre mégalithique de Stonehenge dans le sud de l'Angleterre, c'est ce qu'affirme le journal. Le quotidien britannique estime en outre que ces découvertes vont révolutionner l'étude de l'Europe préhistorique, alors que l'on pensait jusqu'à présent que l'architecture monumentale ne s'était développée que plus tard au Moyen-Orient, en Mésopotamie et en Égypte. Un mémorial de style contemporain dédié à l'empereur français Napoléon Ier, au tsar russe Alexandre Ier et à l'empereur d'Allemagne François II sera bientôt inauguré à Zbichov pour le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz. C'est ce qu'a annoncé vendredi la société napoléonienne tchèque. Le monument sera inauguré le 17 septembre dans une localité par laquelle les trois souverains sont passés avec leurs armées le 2 décembre 1805 lors de la fameuse bataille des trois empereurs. C'est près d'Austerlitz, en Tchèque-Slavkov, en Moravie, que Napoléon Ier a livré le 2 décembre 1805 une bataille victorieuse face aux armées d'Alexandre Ier et François II, un an jour pour jour après son sacre. Et on termine ce bulletin avec la météo, le ciel reste en partie couvert sur la République tchèque, avec des températures ne dépassant pas les 19 degrés dimanche, jour de fête des Antoniers. La semaine prochaine s'annonce en revanche plus estivale, et le mercure devrait atteindre 25 degrés dès lundi. Je vous retrouve dans un instant pour le courrier des auditeurs.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
L'invité du Festival des écrivains, Michel Houellebecq, a surpris, déconcerté et fasciné le public pragois. On connaissait sa réputation d'auteur qui déboulonne les tabous, mais on ne s'attendait pas à un personnage de prime abord aussi recroquevillé sur lui-même et semblant lutter contre une timidité insurmontable. Sa voix faible est pas toujours compréhensible, son langage meublé d'hésitation et de longs silences fonctionne cependant comme une carapace protectrice d'un esprit aussi original que corrosif. On s'en est aperçu lors d'un court débat au théâtre Minor, lorsque l'écrivain a joué des questions du public, les renvoyant parfois à ses interlocuteurs comme des balles de ping-pong, les détournant et les déformant avec humour et montrant ses questions et ceux qui les posaient sous un éclairage surprenant et teinté d'ironie. Ce n'est qu'après le départ de ce superbe manipulateur que l'on s'est rendu compte que nous venions d'assister à une véritable mise en cause du débat entre l'écrivain et ses lecteurs. Ce fut comme une mise en évidence des clichés et des lieux communs qui sont si fréquents dans de tels dialogues durant lesquels on entend souvent des questions banales et les réponses que le public désire entendre. Michel Houellebecq a aussi lu un long passage de son livre « Extension du domaine de la lutte ». Voici comment il a présenté son texte en jouant du contraste entre les héros de son roman et la personnalité de Giacomo Casanova, auquel le festival était dédié.
En fait, c'est en prenant l'avion que je me suis aperçu que je venais à un festival dédié à Casanova. Ça m'a fait un choc. Enfin, bon, pour eux, pour vous, sûrement, enfin, pour les Tchèques, ça évoque diverses choses, mais il est surtout resté célèbre, était un grand séducteur. Enfin, c'est même comme ça qu'il est passé dans le langage courant. Et c'est pas tellement fréquent, les gens dont le nom propre devient un nom commun. Enfin, bon, tout ça était un peu embarrassant parce que les personnages de mon roman sont vraiment pas des Casanova, quoi. Le premier, le narrateur, n'a pas de vie sexuelle depuis des années et des années. Il est beaucoup trop déprimé, découragé, pour faire une tentative dans ce sens. Et puis bon, comme il est déprimé et découragé, même s'il essayait, ça marcherait pas. Le deuxième, Raphaël Tisserand, lui, il essaye de séduire des femmes, enfin à peu près toutes, mais ça marche pas, enfin il est trop laid, il a pas de charme, peut-être une mauvaise odeur corporelle. Enfin, c'en est au point qu'il a jamais réussi à séduire une seule femme. Donc effectivement, si ces personnages se mettaient à penser à quelqu'un comme Casanova, je pense que ce qu'ils éprouveraient, c'est une jalousie atroce, beaucoup de haine, allant sans doute jusqu'au désir de meurtre. Bref, difficile d'envisager une lecture plus anti-Casanova, quoi. Donc dans l'avion, je me suis mis à envisager de changer au dernier moment, de faire des propositions de lecture avec un contenu sexuel plus positif, parce qu'il y en a dans mes livres, hein. Ça manque pas, on me le reproche souvent même. Et puis, à la fin, je me suis rendu compte que, de toute façon, Extension du domaine de la lutte était le seul livre traduit en tchèque. Et c'est une information que j'ai du mal à mémoriser parce que c'est de loin celui de mes livres qui est le moins traduit en général, quoi. Et donc, en fait, je me suis dit que j'avais pas d'issue, en fait, que j'allais lire ce livre. Donc, c'est une lecture qui est vraiment très difficile de dédier à Casanova.
On sait que les rapports de Michel Houellebecq vis-à-vis de la presse sont très compliqués depuis la publication d'une interview dans le magazine Lire en 2002 qui lui a valu un procès contre différentes associations musulmanes. Et bien qu'il refuse souvent de répondre aux journalistes, cette fois-ci, il a répondu aux questions de Radio Prague.
La vie des héros de vos romans est souvent une suite de déceptions. Est-ce qu'il y a dans votre univers qui est plein de pessimisme aussi une lueur d'espoir, quelque chose qui permet d'espérer le bonheur?
Je dirais que ça dépend des livres. Comme il n'y en a qu'un seul qui est paru en Tchécoslovaquie, Extension et mener la lutte, dans Extension et mener la lutte, la réponse est simple, non, radicalement aucune.
Et dans les autres livres?
Oui, on peut dire que dans Plateforme, le personnage central ne passe pas loin du bonheur.
Votre œuvre a été qualifiée de scandaleuse, de pornographique, etc. Est-ce que vous vous considérez comme l'homme par qui le scandale arrive? Est-ce que le scandale peut aider une œuvre littéraire à s'imposer?
Non, au bout du compte, ça ne cause que des emmerdements, parce que ça déplaît beaucoup aux éditeurs, et on finit par être surveillé de plus en plus près. Donc c'est plutôt un inconvénient pur, en réalité, au bout d'un certain temps. En fait, le scandale, ça dépend jamais tellement de soi, hein. Finalement, c'est jamais très bien ce qui va scandaliser les gens, ce qui va provoquer des procès ou non.
Vous obéissez donc tout simplement à votre vision du monde?
Oh oui, enfin j'obéis pas uniquement à ça, enfin à ça, mais j'obéis aussi au personnage, hein, en fait. Un personnage, une fois que c'est commencé, ça, c'est parfois plus lui qui commande que l'auteur. Enfin, bon, j'exagère un peu en disant ça, mais dire que l'auteur commande complètement ses personnages serait une autre exagération.
Est-ce que vous vous heurtez dans votre création littéraire à la censure? Est-ce que vous êtes obligé parfois de pratiquer l'autocensure?
J'essaye de pas le faire.
Et vous réussissez à ne pas le faire?
J'espère, mais c'est épuisant. C'est de loin une des choses les plus épuisantes dans le fait d'écrire un livre. Oui.
Aujourd'hui, vous vous trouvez à Prague, dans le pays de Kafka, de Hašek, de Rabal, de Kundera. Est-ce que vous connaissez la littérature d'Europe centrale? Est-ce qu'elle a joué un certain rôle dans votre évolution littéraire?
Honnêtement, je soupçonne qu'il existe effectivement quelque chose comme l'Europe centrale, mais finalement, à tort, hein, je le différencie pas si bien que ça du domaine allemand. C'est-à-dire que Kafka, par exemple, je me suis rendu compte, enfin, bon, j'ai lu tous ses livres en réalité, sans vraiment m'inquiéter de savoir d'où il était, quoi. Je savais juste que c'était traduit de l'allemand,
Ça, c'était important parce que j'essayais de lire en allemand parfois. Et le fait qu'il appartienne non pas vraiment du tout à l'Allemagne, mais à un autre ère culturelle tout à fait différente, m'est apparu que récemment. Donc je peux pas dire que je... Enfin, peut-être qu'il y a d'autres auteurs que je crois allemands, mais qui sont autrichiens ou tchèques, enfin je sais pas. C'est possible.
Pourquoi avez-vous quitté la France? Pourquoi vivez-vous maintenant à l'étranger?
Surtout pour changer. J'ai du mal à apprendre les langues étrangères et finalement, j'avais envie d'apprendre à parler l'anglais. Je crois que c'est la raison de base, en fait. La seule possibilité pour moi, parce que je suis vraiment très très mauvais en langue étrangère, en fait ça me demande des efforts énormes, c'était de vivre dans un pays où on parle anglais.
Quelle est jusqu'à ce moment votre impression de Prague?
Mais à vrai dire, mis à part le fait que c'est très beau, aucune. Enfin, j'ai juste fait un tour dans le centre, enfin. Mais oui, c'est très beau. Oui.
C'était Michel Welbeck. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Jarka Fikrlová, réalisation technique, et à Petr Pokorný, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague. Ahoj vám všem milovníkům češtiny Radia Praha. Il y a 200 ans de cela, le 11 juin 1805, naissait Anna Khadimova, de son nom de jeune fille, une modeste servante de Bohème qui aurait lancé une danse désormais connue et jouée dans le monde entier, la polka. Si certains historiens, essentiellement en Pologne cependant, émettent encore quelques doutes sur son origine, tout laisse pourtant à penser que cette danse à l'allure vive et très rythmée est bel et bien apparue pour la première fois en Bohême. C'est donc à l'histoire et à l'évolution de la polka que nous allons nous intéresser pour cette fois. Très appréciée de nos mères et grand-mères, la polka reste pourtant, aujourd'hui encore, une danse actuelle, festive, gaie, entraînante, au rythme plein de tempérament et de bonne humeur. Quoi de mieux d'ailleurs qu'un air de polka pour relancer, après minuit, un bal, une soirée dont l'ambiance est en train de tomber. Devenue symbole au XIXe siècle du réveil ou du renouveau national tchèque, la polka, même si on la lance désormais sans doute un peu moins qu'auparavant dans les bals populaires ou autres soirées de mariage en France ou en Belgique, garde son statut de danse nationale en République tchèque et en Pologne. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre aux heures de cours collectives de danse administrées chaque soir un peu partout dans le pays aux jeunes tchèques. Là, avant de faire l'étalage de leurs talents au cours de bals grandioses, des milliers d'adolescents, plus ou moins contraints par des parents soucieux de respecter la tradition, répètent pendant des heures les petits sauts et pas chassés qui caractérisent la polka. Polka est donc une danse tchèque apparue dans les années 30 du 19e siècle. Si certains Polonais affirment de leur côté que la polka est une danse bien de chez eux, c'est notamment parce que le mot polka, en tchèque comme en polonais, signifie également polonaise et désigne une femme polonaise. Toutefois, et ce selon la théorie la plus répandue sur l'origine du nom, si cette danse a été appelée polka, c'est parce qu'il s'agit d'un honneur fait aux voisins polonais. En l'occurrence de l'admiration et de l'enthousiasme des Tchèques pour la rébellion, l'insurrection des Polonais contre la répression exercée par les troupes tsaristes. Pour les Tchèques, alors sous domination des Habsbourg, cette résistance polonaise, même si elle se solda par l'échec de la Révolution et la capitulation de Varsovie en 1831, avait, on peut le supposer, certainement valeur d'exemple. Des doutes plus prononcés sont en revanche émis sur la naissance de la danse. Plusieurs sources en attribuent les mérites à la servante Anna Khadimova. Celle-ci aurait effectué quelques pas de danse inhabituels et personnels sur l'air d'une chanson populaire de l'époque intitulée « Strichek Nimra Kupil Shimla ». Oncle Nimra a acheté un cheval blanc en français. Les personnes qui regardaient Anna apprécièrent sa façon de bouger et se mirent à l'imiter. Ainsi vit le jour la polka.
Vím, kde se stýká ta umělníka, tok řeky Labe s Vltavou. Stráně vonící, hrévou zrající, zpívají polku jásavou. Mám jedno přání, ať spěchá zrání, vždyť radost víno rozdává. A sklenku vína nám připomíná.
Au début, cette danse était donc appelée Nimra, en référence au nom de l'oncle dans la chanson populaire. Ce n'est qu'en 1835, lorsqu'elle arrive à Prague, que son nom évolue. On parle d'abord de Pulka, mot tchèque qui signifie moitié ou demi, en référence au pas chassé servant de base à la danse à deux temps sur une demi-mesure, puis finalement de Polka. Tout d'abord dansée par les gens du peuple, de service et des fermes, la polka devient vite populaire et très à la mode, répandue au sein des classes sociales plus élevées tchèques par les étudiants, mais aussi à l'étranger. Enseignée à Paris en 1840, puis en Allemagne et en Russie, la polka est présentée en 1845 à Londres à la reine d'Angleterre Victoria, avant que les immigrés d'Europe centrale ne l'importent en Amérique du Nord et du Sud et en fassent une danse internationale. En témoignent les compositions de Bedřich Smetana et Antonín Dvořák et surtout la plus connue des polkas, la chanson composée entre 1927 et 1929 par le tchèque Jaromír Vejvoda, la fameuse Škoda Laski, Beer Barrel Polka en anglais, devenue hymne inofficiel de toutes les armées ayant combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc sur cet air enjoué que prend fin ce tchèque du bout de la langue consacré à la polka. En attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine, portez-vous du mieux possible. Mějte se co nejlíp, portez le soleil en vous, slunce v duši, dansez la polka si vous en avez l'occasion. Salut et à bientôt. Zatím, ahoj.
Courrier des auditeurs. Alex Rosenzweig.
Salut à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de votre émission préférée, celle de votre courrier. Et nous commençons aujourd'hui notre émission avec des courriels, car nous sommes entrés dans l'ère de la modernité et d'Internet. C'est donc avec un mail qui nous vient du Canada, écrit par Alain Fréchette, que je commence. Je vous lis tout de suite. « Bonjour, je suis un Canadien. C'est la première fois que j'écoute Radio Prague. C'est très bien réalisé. Il y a plusieurs années, j'ai connu un artiste sculpteur tchèque, Olaf Hanel, sculpteur alors qu'il habitait Sherbrooke, Québec, au Canada. Ce fut une belle rencontre. Au plaisir de vous réécouter, Alain Fréchette. » En tout cas, si M. Olaf Hanel nous écoute et se reconnaît, qu'il se manifeste, nous serions très heureux de pouvoir le remettre en contact avec Alain Fréchette. Je passe au courriel suivant, celui qui nous vient du Maroc et de Meknès plus exactement, signé Idriss Bouhoudina. Idriss Bouhoudina, je répète. Et qui nous a écrit un très sympa courriel. Autant qu'auditeur, on est très heureux d'avoir écouté les émissions d'une telle radio que la vôtre, nous écrit-il. Les émissions présentées sont à la hauteur et de haut niveau car il y a une variation entre les programmes présentés d'une part et la façon de les présenter d'autre part qui séduit les auditeurs et les attire à être à l'écoute à chaque moment. Il poursuit en nous disant que nos émissions lui permettent de s'ouvrir sur le monde pour transporter toutes sortes d'activités sportives, politiques, culturelles, distractions et artistiques. Et puisqu'on parle artistique, j'aimerais dédier cette prochaine chanson à notre auditeur du Maroc, Idriss Bouhoudina. Elle est signée Radouza et comme vous allez pouvoir l'entendre, cette jeune chanteuse tchèque peut également chanter en français.
Očima uhlasem a nebylo to studem, peřina pohlase nějak už bude, lino je studený, ponožky a pak triko a kabát přes denim a nic a ticho. Cette chanson n'a jamais été chantée comme il faut, c'est ça. Mais si tu veux, nous tous les deux pouvons le faire comme ça. La tranquillité, c'est ce qu'on cherche, on dit puisse-t-elle venir. On dit que tout est difficile, mais qu'est-ce que ça veut dire? Zouvam si par těžkej bot, si ve vesmíru můj pevnej bot. A sukně kasám je blízko brod, a pryč je co kdo z bot. Jen hlesnu v dveří, víš, nelhala jsem dosud. A jestli nevěříš, zkus špičku nosu. Okna jsou zamřený, nádobí škopek plné, mám hrdlo stažený, a jej, ani ne. Cette chanson n'a jamais été chantée comme il faut, c'est ça. Mais si tu veux, nous tous les deux pouvons le faire comme ça. La tranquillité, c'est ce qu'on cherche, on dit puisse-t-elle venir. On dit que tout est difficile, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Pas mal son français, non? Je poursuis avec les courriels qui nous viennent de France cette fois-ci. Un courriel qui nous est signé Anis Sedi, qui nous écrit de Montmélian en France. Je vous cite, je vous écris de Savoie en France parce qu'un de nos professeurs travaille avec sa classe de 3e sur un projet de réflexion sur la notion de crime contre l'humanité. Nous avons visité Oradour-sur-Glane, nous nous intéressons de près à votre village martyr Lidice. J'ai lu un article qui parle du livre de Edouard Stelik, Lidice, un village tchèque, sur votre site. Ce livre est-il traduit en français et comment peut-on essayer en France de se le procurer? Elle nous signe en disant qu'elle est directrice du collège Pierre et Marie Curie à Montmélian, donc. Alors, après quelques recherches effectuées sur Internet, je ne crois pas que le livre d'Edouard Stelik a été traduit en français. En revanche, en cherchant un peu sur le web, j'ai trouvé un site qui pourrait peut-être aider Anis Sedi dans ses recherches. Ce site s'appelle http://www.lidice-memorial.cz. Je rappelle www.lidice-memorial.cz. Je pense qu'elle trouvera toutes les informations nécessaires à ses recherches pour ses élèves. Et je passe ensuite au rapport d'écoute. Je vous les cite un à un tel que je les découvre. D'abord Philippe Marsan, toujours notre fidèle auditeur que nous remercions, qui nous en envoie au moins 2 par semaine. Et cette semaine, c'était 3. Christiane Peters de Belgique. Ensuite, Michel Ben, qui est aussi de Belgique, un très fidèle auditeur que nous remercions vivement, qui nous a envoyé 2 rapports d'écoute cette semaine. Philippe Marsan, encore une fois. De Narbonne, une carte postale qui est signée par André Balboa. Merci beaucoup pour cette très jolie carte postale et ce rapport d'écoute toujours très exact. Et le dernier, avec un nouveau logo qui nous vient de Villeurbanne en France et qui est signé par Monsieur Martou. Merci à lui également. C'est ainsi que je termine avec les rapports d'écoute. Non, j'en ai encore un signé Jean-François Mail. Merci beaucoup. Qui nous dit que la réception a été plutôt bonne ces derniers temps. Merci à lui. Et on poursuit avec cette reine de la musique tzigane dont nous vous avons déjà parlé sur Radio Prague, qui s'appelle Vira Bila. Tout de suite, un extrait de son dernier album, C'est comme ça.
Ire palma doi chavore, ai se chocar yo calore, guidaba me mangele darie kes.
Ujaram, no sigues de la vez. palma dulce vore, ai se shukar yon calore, ki dava me mangele zariekes. Vire palma dulce vore, ai se shukar yon calore, ki dava me mangele zariekes.
Ujara! Il ne vous reste plus que quelques jours pour répondre au grand concours 2005 de Radio Prague. Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question suivante. La bière tchèque, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Et vous pouvez envoyer vos réponses jusqu'au 15 juin, et ce sera la date limite, à notre adresse postale, Radio Prague, Vinohradská 12. Vinohradská, ça s'écrit V-I-N-O-H-R-A-D-S-K-A, numéro 12. Code postal 120-99, Prague 2, République tchèque. Vous pouvez aussi utiliser le courriel à l'adresse cr@radio.cz. Et le premier prix de ce concours est un séjour d'une semaine en République tchèque pour deux personnes. Les auteurs des autres meilleures réponses seront récompensés par des prix de valeur et leurs noms seront publiés sur notre site internet que vous connaissez déjà tous, www.radio.cz. Le séjour d'une semaine est gracieusement offert par l'hôtel Falkensteiner Maria Prague dans une atmosphère familiale de style en plein centre de la ville. Les billets d'avion sont offerts par les lignes aériennes tchèques, CSA, votre partenaire lors de vos voyages en République tchèque. Et c'est ainsi que se termine votre émission consacrée à votre courrier. J'espère que vous serez nombreux à répondre à ce concours et nombreux encore à nous écouter sur les ondes courtes de Radio Prague. Et merci à toutes et à tous, à bientôt.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.